Chapitre 7. Le récit de Katie Bell. Si nous retournons sur nos pas pour entrer dans le cabinet de travail de William Doe, au moment où l'y introduisait Mistress Copson, qui pensait venir chez un amant, nous assisterons à la scène qui explique comment s'étaient préparés les événements que nous venons de raconter. Ada, affolée de passion, venait de franchir le seuil de cette pièce lorsque l'homme, de qui elle n'attendait que des sourires, prit soudain une physionomie sévère et, s'effaçant, lui montra du regard et du geste un corps de femme à demi nu qui reposait sur un divan.
« Miss Ada, Miss Ada !» s'écria Mistress Copson.
« Vous avouez donc, Katie Bell, » lui dit William Doe. C'est alors que la malheureuse poussa ce cri de terreur et de désespoir dont nous avons parlé et que, ne pouvant résister à une semblable émotion, elle s'affaissa comme une masse sur le parquet. À ce bruit, Young et Sanders s'élancèrent de la chambre à coucher dans la bibliothèque. Rien ne saurait peindre la stupéfaction du fabricant de biscuits. Il s'était précipité d'abord vers Mistress Copson pour la secourir. Mais le détective l'avait arrêté en lui désignant le divan où était étendue la femme de cire. Et le pauvre homme, les yeux hagards, la physionomie bouleversée, restait immobile, se demandant laquelle de ces deux femmes était son Ada à lui. Craignant qu'une pareille secousse ne fût trop violente pour le cerveau mal équilibré de Sanders, William Doe se hâta de lui dire « Calmez-vous, mon ami. Votre maîtresse est bien morte. Ce corps n'est que le moulage que j'en ai fait exécuter dans l'espérance secrète qu'il me servirait un jour. Quant à cette femme, son étrange ressemblance avec Miss Ada en a fait la complice de James Copson. Mais c'est elle qui va devenir notre instrument de justice et de vengeance. » Et pour que le trop impressionnable Yankee n'eût pas plus longtemps sous les yeux cette image qui le fascinait, il la recouvrit tout entière de la longue pièce d'étoffe dont elle n'était qu'à demi enveloppée. À ce spectacle inattendu, Young, lui, n'avait manifesté aucune sensibilité. Mais devinant, malgré son intelligence médiocre, que son ami Doe allait prendre sa revanche, il avait eu pour lui un regard d'admiration. Puis il s'était penché sur Mistress Copson et l'avait prise dans ses bras pour la porter sur un fauteuil où, quelques minutes après, elle commença à reprendre connaissance. « Katie Bell, » lui dit William lorsqu'il vit qu'elle était en état de le comprendre. « Revenez à vous. Votre sort est entre vos mains. »«
Katie Bell ? Murray, pourquoi m'appelez-vous ainsi ?» balbutia la jeune femme.
« Parce que c'est là votre nom. Moi, je me nomme William Doe. Et regardez bien ces messieurs. Vous les reconnaîtrez peut-être. » Mistress Copson porta ses regards alternativement sur Young et sur Sanders, et son visage, qui commençait à reprendre ses tons rosés, redevint livide. Elle comprenait qu'elle était perdue. « Écoutez la lecture de ces quelques lignes, » reprit le détective, qui avait tiré de son carnet une feuille de papier couverte de caractères imprimés et manuscrits. « Aujourd'hui, 20 février 1840, par nous, Armand Rebours, vicaire de la paroisse de Saint-Joseph, ont été baptisés selon les rites de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, les nommés Katie et Anna Bell, nées le 13 de ce même mois, sœurs jumelles et filles légitimes des époux Bell, en présence des témoins, les sieurs Jack Howey, Bernard Love et les dames Mary Kellen et Lucy Molden, parrains et marraines. Signé Armand Rebours, prêtre. Pour copie conforme du dit extrait de baptême, Edward Burney, curé de la paroisse de Saint-Joseph. Robert Hall, coroner de la dite paroisse, New Orleans, 14 juin 1860. Mistress Copson était en proie à une si violente émotion qu'elle ne pouvait prononcer une parole. Mais ses yeux s'interrogeaient avec une telle angoisse que William Doe poursuivit. Vous êtes Katie Bell, et cette statue de cire, c'est tout ce qui reste d'Anna, votre sœur, que Copson a assassinée et dont vous avez pris le nom et la place grâce à votre incroyable ressemblance avec elle.
« Ma sœur !» s'écria la jeune femme en recouvrant aussitôt la voix à cette horrible révélation. « Ma sœur ! Oh, messieurs, vous ne me croyez pas complice de cet épouvantable crime ?»
Elle s'était jetée à genoux en étendant vers ses juges ses mains suppliantes et répétait à travers ses sanglots.
« Non, non, ne le croyez pas, je vous en conjure !»
Il y avait un tel accent de vérité dans cette prière que William lui-même en fut ému. Il se pencha vers Katie,
la releva, la força de reprendre place dans le fauteuil qu'elle venait de quitter, et sachant que les larmes sont le meilleur des calmants, il la laissa pleurer pendant quelques instants. Puis il lui dit « Soit, je vous crois, mais il faut nous avouer toute la vérité, ne rien nous cacher. Ensuite, il faudra m'obéir. »
« Disposez de moi, messieurs, » gémit la malheureuse. « Ma pauvre Anna, depuis plus de 10 ans, je n'avais pas entendu parler d'elle. Je la croyais toujours à la Nouvelle-Orléans, au milieu de notre famille que j'ai quittée pour suivre le misérable qui m'a perdue. Nous n'avions plus de mère, notre père s'inquiétait peu de nous. Je n'ai pas su le mariage d'Anna. Et c'est cet infâme, ce Copson qui l'avait épousée. Et moi, j'ai été sa maîtresse, je suis devenue sa femme. Oh, c'est horrible, laissez-moi. »
En disant ces mots, Kitty Bell se débattait entre les bras de William Doe et de Young, qui l'avaient arrêtée au moment où elle s'élançait pour se jeter par la fenêtre. Ils la portèrent dans la chambre à coucher et l'étendirent sur une chaise longue. Saunders, qui assistait à cette scène avec une stupéfaction et un hébétement impossibles à rendre, les suivit. Quelques minutes après, Mistress Copson redevint un peu plus calme, et William Doe l'ayant invitée à lui faire connaître les moindres détails de ses relations avec James Copson, elle dit en pleurant
« C'est à San Francisco, il y a 6 mois à peu près, que je fis la connaissance de James Copson. J'étais barmaid,
demoiselle de comptoir,
dans un établissement dont cet homme était un des habitués. Il me fit la cour, je lui cédai, et il m'emmena chez lui, où j'étais relativement heureuse malgré les scènes qu'il me faisait lorsqu'il était ivre. Un jour, je voulus le quitter parce que, dans un excès de colère, il m'avait blessée en m'arrachant brusquement une de mes boucles d'oreilles. Mais il s'excusa si humblement de sa brutalité et me fit si bien soigner que je lui pardonnai. Pourquoi ai-je cette faiblesse ?»«
Poursuivez, Kitty, surtout n'oublie rien, » lui recommanda le détective.
Je restai donc avec Copson. Mais il y avait moins de 15 jours que s'était passé ce que je viens de vous raconter, lorsqu'un matin, après avoir pris une tasse de thé, je m'endormis d'un étrange sommeil. Il dura 3 ou 4 heures au moins. Quand je me réveillai, cet homme était près de moi, me regardant avec inquiétude.
« Vous vous êtes évanoui, me dit-il, et en tombant, vous avez failli vous tuer. Ce ne sera rien, heureusement. »
Je ressentais en effet à la bouche une vive douleur. J'ai porté la main, et l'ayant retirée pleine de sang, je m'élançai devant une glace. Il me manquait une dent du côté droit. Je jetai un cri de désespoir, et le misérable s'efforça de me consoler. « Je m'étais cassé cette dent, affirmait-il, en glissant contre un meuble. » Cet accident me causa une véritable épouvante, car je n'étais nullement sujette aux évanouissements. Mais à partir de ce moment-là, Copson devint si doux, si empressé, si généreux, il n'attendait même pas que j'exprimasse un désir pour le satisfaire, que j'oubliais bientôt cet inexplicable événement.
Vous comprenez maintenant quel était le but de Copson ?
Oh oui, l'infâme ! Ma pauvre Anna ! Nous nous ressemblions à ce point, lorsque nous vivions l'une auprès de l'autre, que notre père lui-même, pour nous distinguer, nous faisait porter des colliers de velours de couleurs différentes.
Or, comme Copson avait déchiré une oreille et cassé une dent à sa femme, il fallait que celle qui devait la remplacer eût également une dent de moins et une cicatrice à l'oreille. Arrivez à votre départ de San Francisco.
Nous quittâmes San Francisco vers le mois de novembre de l'année dernière pour venir habiter une petite maison de campagne auprès de Washington. Là, je vivais dans un isolement complet. Copson me défendait d'aller en ville et ne recevait jamais personne. Lui, il s'absentait souvent des semaines entières. Comme il me témoignait beaucoup d'affection et me répétait à chacun de ses retours qu'il travaillait à mon bonheur, qu'il voulait faire de moi sa femme, je lui obéissais. Cependant, instinctivement, je le craignais. J'aurais voulu le fuir. C'est dans ces conditions que nous avions atteint le mois de janvier, lorsqu'un jour, James rentra à la maison dans un état d'exaltation qui m'épouvanta. Ce qu'il me dit alors... Oh, je ne sais si je pourrai jamais m'en souvenir.
C'est indispensable, observa sévèrement William Doe, car c'est de la franchise que vous apporterez dans ce qui vous reste à nous faire connaître que dépend votre sort. De plus, est-ce que vous ne voulez pas que votre sœur soit vengée ?
Oh, oui, il le faut,
répondit Kitty vivement, en relevant sa tête qu'elle tenait cachée entre ses deux mains. Et précipitant alors ses paroles, elle poursuivit.
Il me parla d'une femme à laquelle je ressemblais d'une façon tellement extraordinaire que tout le monde me prenait pour elle. Elle s'appelait Ada Ricard. Un homme, le colonel Forster, en était amoureux et voulait la faire enlever et partir avec elle pour un long voyage. Avec de l'audace et du sang-froid, je pourrais me faire passer pour cette femme. Gobson se chargeait de me faire conduire lui-même auprès du colonel, qui lui avait promis une somme considérable. « Monsieur Forster, ajouta l'infâme, connaît à peine Miss Ada. Son erreur sera complète. Il vous adorera. Et comme il est généreux et riche, vous en aurez tout ce que vous voudrez. » C'était horrible, ignoble, mais j'étais une femme perdue. Une fille qui s'était vendue. Une semblable proposition ne pouvait me répugner beaucoup. Et puis, je voyais l'occasion de me séparer enfin de cet homme. J'acceptai. Il me raconta les moindres particularités de la vie d'Ada Ricard. Il les connaissait par quelqu'un qui vivait certainement dans sa maison. Enfin, il m'apprit ce rôle que j'allais jouer sans savoir tout ce qu'il avait d'odieux. Je me tins prête, et un matin nous partîmes pour New York, où nous arrivâmes pendant la nuit. Il me logea dans une maison que je ne pourrais même pas reconnaître, car si nous y allâmes à pied, ce fut à travers un épais brouillard. Je crois seulement que c'était dans un horrible quartier. Les rues y étaient étroites et boueuses. La rivière était à 200 pas de là. Après avoir fermé la porte de ma chambre, où il m'avait d'ailleurs apporté toutes les provisions nécessaires, il me laissa seule dans cette maison pendant toute la journée du lendemain. Ce lendemain, un mardi, je m'en souviens, il arriva vers 2 heures du matin. Il portait un paquet qu'il ouvrit devant moi. Il contenait un costume d'indienne du temps des Incas. Il m'ordonna de m'en revêtir. J'eus alors un pressentiment lugubre, car Gobson était pâle et beaucoup plus ému qu'il ne voulait le paraître. Mais il me dit d'un ton si menaçant « Finissons-en, c'est avec ce déguisement que Miss Ada a été enlevée. Il faut donc que vous arriviez habillée comme elle auprès du colonel Forster. » Que j'eus peur, et je n'osais demander ce qu'était venue la femme dont j'allais prendre la place. Je m'habillai ainsi que me l'ordonnait Gobson, et selon ses indications. Il avait tout prévu. À chacune des stations du yacht du colonel, je devais lui envoyer un mot aux initiales AZ à Baltimore, poste restante, et lui annoncer mon retour de la même façon. S'il lui arrivait malheur, je devais, en rentrant à New York, me présenter hardiment au numéro 17 de la 23e rue Est, où je trouverais une femme, Mary, qui me reconnaîtrait pour être Miss Ada. Kitty Bell avait éprouvé en prononçant ce dernier mot, le nom de sa sœur, une telle émotion que les sanglots étouffaient sa voix. Après lui avoir laissé quelques instants pour se remettre, William Doe lui ordonna de continuer son récit. « Cette domestique, poursuivit la jeune femme en pleurant, était la complice de ce misérable. Tout se passa comme l'avait prévu Gobson. Dès que je fus prête, il me fit traverser la rivière et me livra au colonel Forster avec qui j'avais voyagé plus de 2 mois sans qu'il y eût jamais le moindre soupçon. Lorsqu'en débarquant à Baltimore, j'ai appris ce crime mystérieux par les journaux. J'ai compris, mais je n'ai pas osé dire la vérité. J'ai eu peur. Seulement, je l'avoue, entraînée, affolée, j'ai voulu jouer mon rôle jusqu'au bout pour me venger de James Gobson. Sans l'accident du bourreau Meyer, je serais arrivée trop tard. Je savais quel jour avait été fixé pour l'exécution et c'est pourquoi je ne suis rentrée à New York qu'à l'heure où je croyais tout terminé. Mais la fatalité avait décidé qu'il en serait autrement et il m'a fallu arracher l'infâme à la potence. Vous savez le reste, mais je vous jure sur mon salut éternel. Oh, si bas tombée que soit une fille comme moi, elle n'oserait faire un pareil serment. Je vous jure que, lorsque j'étais livrée au colonel Forster, j'ignorais que Miss Ada eût été assassinée, et que c'est seulement là, dans cette chambre, que j'ai su que la victime de Gobson était sa femme, ma sœur, ma malheureuse Anna. Maintenant, faites de moi ce que vous voudrez. Livrez-moi à la justice, tuez-moi, ou laissez-moi mourir.
« Non, Kitty Bell, répondit William Doe, vous ne mourrez pas, et la justice sera indulgente pour vous. Mais il faut nous aider à punir. »
Ordonnez.
Ce costume d'indienne qui vous a permis de tromper un galant homme, vous allez le revêtir de nouveau pour que nous puissions atteindre le coupable. » En disant ces mots, le détective avait tiré d'un coffre une toilette absolument semblable à celle que portait Ada Ricard la nuit de son enlèvement. Et pendant que Kitty Bell s'habillait, il avait transporté avec l'aide de Young la statue de cire sur le lit de Mistress Gobson. Ils étaient ensuite revenus chercher celle-ci, ainsi que Sanders, qui avait assisté avec des étonnements inénarrables ces diverses scènes. Et le lecteur sait comment James Gobson, attiré chez lui par cette lettre de sa femme, qu'il devait croire adressée au coroner Davis, avait donné dans le piège si habilement tendu par le héros de ce récit. Retournons maintenant dans cette chambre où nous avons laissé James Gobson, assassin pour la seconde fois de Miss Ada, entre les mains de Young et de William Doe.